Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Dans la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Amis auditeurs, bonjour. Déjà en 1805, Napoléon Ier alertait sur l'importance de la Chine et son impact sur le monde. Aujourd'hui, il semblerait bien que la Chine se soit réveillée. Alors, le monde va-t-il trembler ? La puissance économique, politique, démographique de la Chine ne cesse de nous préoccuper. Un éclairage sur ce sujet spécifique s'impose donc. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame. Et pour parler de ce sujet si brûlant, j'ai la joie d'accueillir un spécialiste de la Chine, Pierre-Antoine Donnet. Bonjour Monsieur Donnet.
Bonjour.
Pierre-Antoine Donnet, vous avez été rédacteur en chef central de l'agence France Presse de 2005 à 2018. Vous êtes en ce moment rédacteur en chef de la revue Asia Magazine et collaborateur pour Asialiste. Vous écrivez début 2024 « Chine, l'empire des illusions » aux éditions Saint-Simon. Alors, Monsieur Donnet, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le régime politique de la Chine sous Xi Jinping ?
Oui, alors juste un tout petit correctif, j'ai été rédacteur en chef central de l'AFP pendant seulement 2 ans, mais rédacteur en chef en titre, effectivement, pendant 5 ans, comme vous l'avez dit. Alors, oui, alors le régime politique de la Chine depuis 1949, c'est un régime communiste. Il a été porté au pouvoir par Mao Zedong. Et ensuite, ma foi, les dirigeants se sont succédés les uns après les autres. Et ce régime est devenu particulièrement dur depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Alors, Xi Jinping est à la fois le président de la République populaire de Chine, il est aussi secrétaire général du Parti communiste chinois et il est enfin aussi président de la Commission militaire centrale. Donc, il réunit tous les véritables pouvoirs en Chine. Il prend soin d'écarter tous ses rivaux déclarés ou non déclarés. Si bien que pour le moment, il est là maintenant solidement au pouvoir et sous son règne, si je puis dire ainsi, les institutions chinoises ont changé, ont évolué et surtout, le régime politique s'est raidi d'une façon assez spectaculaire.
Est-ce que finalement, ce régime et ce mode de gouvernance, il n'est pas adapté à la culture chinoise ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'attend la population chinoise, justement, ce régime restrictif sur la liberté ?
Alors écoutez, je vais vous dire que non, en fait... C'est vrai qu'on a entendu pendant assez longtemps des experts autoproclamés dire que la démocratie n'était pas faite pour la Chine. Non, je ne suis absolument pas d'accord et il y en a une preuve vivante. C'est Taïwan, donc ce petit bout de terre qui est grand comme la Belgique à peu près, où vit 24 millions d'habitants et qui depuis maintenant, je dirais une vingtaine d'années, est un régime authentiquement démocratique et qui donc démontre le contraire. Ceci étant dit... S'agissant de la Chine populaire, donc la République populaire de Chine, il y a, si vous voulez, une sorte de contrat social qui est passé entre le parti et la population, qui est de dire nous allons faire en sorte que votre bien-être matériel soit garanti, que tous les Chinois pourront manger à leur faim, mais en échange, vous nous laissez diriger la Chine comme nous l'entendons. Donc ce contrat social, ma foi, il a existé pendant très longtemps. Alors aujourd'hui, il est clairement revu à la baisse, vu les problèmes économiques que connaît la Chine.
On évoque régulièrement la surveillance de la Chine sur sa population. Est-ce que réellement elle existe et comment se concrétise-t-elle ?
Alors écoutez, ça je crois aussi que l'évolution a été extrêmement marquée depuis 2012, donc depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Je me souviens quand j'étais à Pékin dans les années 80 pour l'agence France Presse, il y avait très peu de surveillance de la société chinoise. Nous, les journalistes étrangers, on était surveillés, bon ça c'est l'évidence, mais en ce qui concerne le Chinois moyen, non, il était très peu surveillé. Tout cela a radicalement changé, au point qu'aujourd'hui, la surveillance est particulièrement sophistiquée. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a ce qui s'appelle les caméras intelligentes. Et ces caméras intelligentes, aujourd'hui, sont au nombre. Les estimations varient peu, finalement. On est assez tous d'accord sur le fait qu'il y a à peu près 700 millions de caméras. Ce qui veut dire qu'il y a une caméra pour 2 habitants en Chine. Donc, on en est arrivé à un point où ce fameux roman 1984 qui parlait de Big Brother et du fait que tout quidam était vraiment sous surveillance, eh ben, en fait, on est aujourd'hui à 1984 puissance 10 en Chine.
On a aussi évoqué un crédit social, un permis à points citoyens, où les citoyens avaient justement des points en fonction de leur bonne conduite. Est-ce que c'est toujours d'actualité ?
Alors oui, il est toujours en place. Il existe depuis maintenant, je dirais, une quinzaine d'années à peu près. Mais le Covid a tout changé. La pandémie du Covid-19 a permis au régime communiste chinois de renforcer d'une façon spectaculaire toute cette surveillance. Alors le crédit social, juste pour résumer, c'est simplement, vous allez être récompensé si vous comportez en bon citoyen, et au contraire, vous allez être puni si ce n'est pas le cas. Alors tout ça, justement, par l'intermédiaire de ces caméras. Alors tout bêtement, mais ça, c'est, encore une fois, c'était déjà il y a longtemps, un citoyen qui traverse la rue en dehors du passage clouté ou quand le feu pour passer est au rouge, eh bien, le lendemain, se voit notifié d'un blâme et s'il répète ses erreurs, il sera puni. Et bon, c'est valable pour d'autres comportements qui sont considérés comme non orthodoxes ou asociaux. Alors, fumer en public, par exemple, ou jeter son mégot, surtout jeter son mégot dans la rue, c'est vrai que non, ça se fait plus parce que le crédit social punit cela. C'est pareil pour cracher. Dans la Chine ancienne, la coutume de cracher au sol était très répandue. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc, on peut penser qu'il y a d'un côté un progrès. Je pense qu'il est indéniable, bien sûr. Un comportement civilisé est certainement bienvenu partout où il existe. Mais aujourd'hui, ce crédit social, il est largement doublé par cette surveillance électronique que je vous ai tout à l'heure décrite.
La numérisation du monde et le fait que de plus en plus de personnes utilisent et déploient leur vie à travers des réseaux sociaux, à travers des objets numériques, tout ça, ça favorise aussi la mainmise de la Chine sur sa population ?
Oui, alors il faut savoir que, je dirais, la très large majorité des citoyens chinois a accès aux réseaux sociaux. Mais cet accès aux réseaux sociaux, s'il est très facile, en revanche, il est aussi extrêmement surveillé. C'est-à-dire que vous allez échanger avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas sur un sujet acceptable. Mais si vous sortez des clous, pour reprendre cette expression, et donc dans ce domaine précis, immédiatement, vous avez une petite main quelque part qui efface votre message. Et si vous allez vraiment trop loin, c'est-à-dire que si vous propagez des messages qui sont considérés dangereux pour la stabilité du régime, entre guillemets, là, par contre, vous risquez des poursuites très graves. Donc, on estime à peu près 200 000, mais je crois que c'est une estimation basse, le nombre de personnes qui sont employées par le régime, donc payées, pour surveiller les réseaux sociaux et pour censurer. Donc cette censure est omniprésente.
Et cette surveillance de la Chine, est-ce qu'elle s'étend au-delà des frontières ? C'est-à-dire, est-ce que moi, Français, je suis aussi surveillé par la Chine ?
Alors, je crois que la surveillance en dehors du territoire de la République populaire de Chine, elle existe, mais essentiellement pour les citoyens chinois, ou les Chinois d'outre-mer, donc qui ne sont pas forcément citoyens chinois, à l'étranger. Par exemple, tout le monde sait qu'à Paris, la communauté chinoise est surveillée de près ou de moins près ou de plus loin, selon son profil. Pour ceux dont on sait qu'ils jouent un rôle politique, la surveillance sera accrue. Pour les citoyens chinois qui, eux, s'écartent de la doxa officielle à l'étranger, y compris par exemple en France, il est arrivé qu'il y a eu carrément des enlèvements, c'est-à-dire des personnes qui sont arrêtées par des services clandestins, parce que ils travaillent dans la clandestinité. On n'a pas le droit, sur un territoire comme la France, de se livrer à ce genre d'activité, d'arrêter quelqu'un à la place de la police française en tant qu'étranger. Mais il est arrivé qu'il y a eu des enlèvements et des citoyens chinois qui soient reconduits à l'aéroport, bien encadrés, et qui soient renvoyés sur le territoire chinois, où, ma foi, sur place, arrivé sur place, il lui arrive des choses pas très agréables.
Vous avez évoqué le régime de Xi Jinping comme un régime communiste. Pourtant, on parle régulièrement d'une ouverture de la Chine sur le monde. Est-ce que cette ouverture est réelle ? Est-ce qu'on va vers une libéralisation du modèle chinois ?
Alors, vous savez, en fait, tout ça a commencé il y a fort longtemps. C'était Deng Xiaoping qui, à partir de 1978, a été l'inventeur des réformes économiques qui ont transformé de fond en comble la Chine telle qu'elle était à l'époque comparée à aujourd'hui. Ces réformes économiques, dans son esprit, elles visaient, un, à mettre les Chinois au travail, et deux, surtout grâce à tout ça, trouver le chemin d'une certaine prospérité. La Chine sortait de 10 ans de folie maoïste avec la révolution culturelle, donc qui a duré jusqu'en 1976, Et revenu au pouvoir, Deng Xiaoping, qui avait été écarté pendant la révolution culturelle, n'a eu de cesse que justement de mettre en pratique ces réformes économiques qui, de nature évidemment, nécessitaient une ouverture de la Chine sur le monde extérieur. Cette ouverture a eu lieu, elle a été multiforme, mais elle était en revanche quand même très limitée sur le plan politique. On en a eu une démonstration en 1989, en juin, le 4 juin, avec ce qu'on appelle communément, et c'est un label que je pense qui s'applique tout à fait à la situation, le massacre de la place Tiananmen. C'est-à-dire il y avait des dizaines de milliers de jeunes Chinois qui manifestaient donc au cœur de Pékin, sur cette immense place, pour davantage d'ouverture et davantage de démocratie. Eh bien, on en est arrivé à un point où le régime et son maître, qui à l'époque était donc Deng Xiaoping, ont jugé que ça devenait insupportable et une véritable menace. Et donc, c'est Deng Xiaoping lui-même, c'est documenté, c'est avéré, a donné l'ordre à l'armée d'ouvrir le feu sur ces manifestants qui étaient pacifiques, qui étaient donc désarmés, évidemment. Alors ensuite, ma foi, il y a eu évidemment, avec cette ouverture, une certaine libéralisation du régime, mais jamais on peut dire qu'il y a eu vraiment une libre expression. Ça, c'est en tout cas pas public, certainement pas. Le régime a toujours été hostile à tout ce qui était influences étrangères et en particulier la démocratie avec tout ce qui l'accompagne. Mais là, pour reparler donc de 2012 et de l'arrivée de Deng Xiaoping, de Xi Jinping au pouvoir, depuis maintenant, on peut dire que la Chine s'est quand même considérablement refermée sur le monde extérieur.
Amis auditeurs, nous faisons une petite pause après cette première partie passionnante. Je vous retrouve tout de suite, amis auditeurs, après cette pause musicale. Vous venez d'entendre un chant chinois à la Vierge Marie et nous retrouvons Pierre-Antoine Donnet, auteur de Chine, l'Empire des Illusions aux éditions Saint-Simon. Monsieur Donnet, on a l'impression que l'ordre mondial est en train d'évoluer avec une fin de la suprématie américaine et l'affirmation des BRICS sur la scène internationale. Est-ce que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale ?
Alors en tout cas, je dirais que le régime chinois en a l'ambition. Clairement, leur président, certainement, aurait plaisir au fait que la Chine soit la première puissance du monde et qu'elle étende son influence partout. Alors, cette menace, enfin, perçue comme telle en Occident, n'a cessé de croître jusqu'au moment du Covid, où là, du fait d'une politique zéro Covid en Chine qui était totalement inepte, l'économie en a souffert grandement. Et ça a été le début d'une régression économique qui n'est pas terminée et qui met fin à un peu plus de 4 décennies de croissance à 2 chiffres, donc supérieure à 10%. Aujourd'hui, on en est à moins de 5% selon les chiffres officiels et en fait moins dans la réalité des choses. Ce qui fait que tout change parce que, un, il y a une certaine grogne sociale qui commence à émerger à l'intérieur de la Chine. Parce que ce pacte, donc, ce mandat du ciel, comme on disait dans la Chine antique, où le parti donnait en échange de la prospérité la garantie de pouvoir faire ce qu'il veut, est rompu. Mais au-delà de ça aussi, cette menace, entre guillemets, de voir une Chine toute puissante, est en train, elle aussi, d'être revue à la baisse. Alors, ayant dit cela, je ferai un distinguo entre la puissance économique et la puissance politique ou militaire. Sur le plan économique, on a vu des experts, entre guillemets, pendant longtemps dire en 2025, la Chine sera la première puissance économique. D'autres ont dit 2027. Et puis bon, ensuite, tout ça, c'est un peu dégradé. Et moi, je pense que les défis aujourd'hui de la Chine sont tels que dans un avenir prévisible, la Chine ne deviendra pas la première puissance économique. Les États-Unis vont le rester, d'une façon ou d'une autre. Pour des raisons telles que, par exemple, cette crise économique dont je viens de parler, mais aussi une démographie en panne et d'autres facteurs encore. Alors maintenant, l'autre volet, c'est la puissance politique ou militaire. Et là, on voit bien que sur le plan militaire, la Chine, là aussi, a accéléré ses préparatifs, notamment vis-à-vis de Taïwan, dont il revendique le fait qu'elle fait partie du territoire chinois. Elle est énorme, certes. Elle est menaçante, clairement. On voit une posture agressive qui coïncide aussi, d'ailleurs, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Et cette posture agressive est certes menaçante pour les voisins de la Chine, tels que le Japon, la Corée du Sud, les Philippines. On a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les Philippines ces derniers mois. Et bien évidemment, Taïwan. Alors, jusqu'où ça ira? La question est posée. Alors maintenant, s'agissant des États-Unis, c'est vrai que les États-Unis, gendarmes du monde, cette vision change. Maintenant, on voit clairement qu'effectivement, déjà lors du premier mandat de Donald Trump, on a vu un certain retour à l'isolationnisme des États-Unis. Et on peut penser qu'avec lui revenu au pouvoir, ça pourrait être de nouveau le cas. On n'en a pas encore la démonstration, vu qu'il n'est pas encore à la Maison-Blanche. Il y retournera, son investiture est prévue début janvier.
Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit sur Taïwan. Est-ce que vous pensez qu'une guerre va bientôt éclater? À quelle échéance? Est-ce qu'on est au bord du gouffre? Est-ce que peut-être tout peut s'embraser avec les États-Unis qui soutiendraient Taïwan et une guerre mondiale qui éclaterait?
Alors, là aussi, je crois qu'il faut faire la part des choses entre les menaces et la réalité. Si vous voulez, la doctrine est claire aujourd'hui, celle de Pékin, et celle d'essayer de gagner la guerre sans la mener. C'est-à-dire de redoubler de menaces, d'encercler Taïwan de façon de plus en plus rapide et de plus en plus complète pour essayer de convaincre la population de Taïwan qu'il est inutile de se défendre si un jour un conflit a lieu. Ça s'appelle faire peur, tout simplement. Impressionner et faire peur. Ce message va aussi, bien sûr, à destination des États-Unis, qui, on le sait, est aujourd'hui quasiment le seul fournisseur d'armement à Taïwan. D'ailleurs, comme les États-Unis sont obligés de le faire avec une loi qu'ils avaient passée lorsqu'ils ont reconnu la Chine populaire. Donc la guerre demain avec Taïwan, personnellement, je ne pense pas que c'est dans un avenir immédiat ou même de court terme. Je ne dirais pas qu'elle n'aura jamais lieu, ça ce serait un peu stupide de l'affirmer, mais en même temps, je pense que le coût économique, social et en vie humaine serait tel que la direction chinoise y réfléchira deux fois si d'aventure, un jour, elle donne l'idée survient de lancer l'assaut contre Taïwan. Ça, c'est l'une des raisons. Mais la deuxième, c'est que Taïwan n'est pas tout seul aujourd'hui. On voit bien qu'on en parle de plus en plus et que les États-Unis sont toujours là, que la 7e flotte croise à proximité immédiate de Taïwan, qu'aujourd'hui, le Japon aussi, les premiers ministres successifs et le dernier l'a dit d'une façon assez semblable, estime qu'une guerre contre Taïwan livrée par la Chine communiste serait aussi un danger vital pour le Japon. Alors, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas une solidarité infinie, mais il y a des amis de Taïwan, entre guillemets, qui sont là pour intervenir si un jour l'assaut est donné. Si bien que pour le moment, on en est à un espèce de statu quo, sachant que les menaces redoublent d'intensité dans le but de terroriser et de faire peur. Jusqu'où ça ira, on verra. Il y a quand même un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Xi Jinping a bien dit à plusieurs reprises que la réunification, entre guillemets, un terme impropre d'ailleurs, je pourrais expliquer pourquoi, cette réunification doit nécessairement avoir lieu lors de la présente génération. Donc lui-même s'est engagé à faire en sorte que cet objectif, qui pour lui est devenu une véritable obsession, soit réalisé, je dirais, dans les 10 à 15 ans qui viennent.
Sur un volet diplomatique, que penser des relations entre le Vatican et la Chine ?
Alors, le Vatican est l'un d'une douzaine d'États qui reconnaissent encore Taïwan, donc qui ont des liens diplomatiques avec Taïwan et donc pas avec la Chine communiste, la Chine populaire. Ça remonte à il y a très loin, mais si vous voulez, aujourd'hui, cette réalité tient au fait que, ben, ma foi, la communauté catholique en Chine est l'objet de pressions très fortes et parfois de punitions très graves et d'une oppression terrible. Pour dire les choses très clairement, pour le régime communiste chinois aujourd'hui et dans l'idée de Xi Jinping, toute religion est une menace potentielle pour le régime. Donc ça veut dire qu'on cherche à combattre les religions autant que faire se peut. Vos auditeurs savent certainement qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle l'Église du silence, c'est-à-dire des pratiquants de la religion catholique fidèles au Vatican, fidèles au pape. Mais ceux-là doivent se cacher. Et donc, le Vatican négocie avec Pékin, on le sait, depuis déjà des années, pour essayer de changer cette situation à l'intérieur de la Chine et pour éventuellement un jour estimer que les conditions seraient remplies pour établir des relations diplomatiques avec Pékin, ce qui l'obligerait aussi à rompre avec Taïwan. On n'en est pas là. Voilà, et je pense que, très sincèrement, ce serait un pari vraiment démesuré que de prendre cette décision aujourd'hui, voyant la situation politique à l'intérieur de la Chine.
On l'a compris, l'homme clé de ce régime, c'est Xi Jinping. Après lui, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce que le régime du Parti communiste peut s'effondrer ? Est-ce qu'il y a un homme qui émerge déjà et qui pourrait prendre sa suite ?
Alors écoutez, vous savez, là aussi, la thèse de l'effondrement du régime communiste chinois, je l'entends depuis que je m'intéresse à la Chine, c'est-à-dire depuis près de 50 ans. C'est, vraiment prendre ses désirs pour des réalités. Non, ce n'est pas pour demain. Xi Jinping a 71 ans. Il est apparemment en bonne santé. Il est là pour rester encore aussi longtemps qu'il le pourra et qu'il le voudra. Le jour où il va mourir, depuis très longtemps, le régime communiste chinois a pris les leçons de l'effondrement du régime soviétique et fera tout pour survivre.
Pierre-Antoine Donnet, vous êtes lancé dans un nouveau projet. Vous êtes maintenant rédacteur en chef de l'Asia Magazine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Est-ce que c'est important pour vous de parler de tous ces sujets asiatiques à nous, Français ?
Oui, je pense. Alors, ce magazine, le numéro 1, vient de sortir le 31 octobre, donc c'est tout frais. Et avec un régime de croisière trimestriel, ça permet d'aborder des sujets de fond qui sont à la fois, bien sûr, géopolitiques, économiques et sociaux, mais qui sont aussi culturels, voire religieux d'ailleurs aussi. On va parler de tout ça. On parle des arts, de la poésie, de la littérature, de la musique, etc., pour essayer de faire partager aux lecteurs francophones, essentiellement la France, la Suisse et la Belgique, de tous ces sujets sur une Asie qui est, un royaume de diversité. Il y a là-bas des savoirs millénaires, et donc je pense qu'il m'appartenait, parce que j'adore l'Asie, j'y ai voyagé depuis tellement longtemps, qu'on y trouve aussi, dans ces savoirs, des leçons de vie pour nous autres occidentaux.
C'est l'avenir, l'Asie, pour vous, Pierre-Antoine Denet ?
Sur le plan économique, là, il est clair que l'Asie de l'Est, la zone Chine, Taïwan, Japon, Corée du Sud, plus l'Australie en quelque sorte aussi, est un réservoir de puissance qui est le plus gros aujourd'hui, le plus prometteur pour l'économie mondiale de demain.
Et la Chine de demain, vous pensez donc que c'est à terme, elle va continuer, elle va perdurer sur ce régime de Xi Jinping. Et est-ce qu'elle va pas, elle aussi, renverser quelque part l'ordre du monde préétabli ?
Non, moi je ne pense pas qu'on en arrive là. Mais ceci dit, on est aujourd'hui dans le monde devant un tel degré d'incertitude géopolitique qu'il est difficile de prédire l'avenir. À court terme, on verra ce qui se passera après l'arrivée à la Maison Blanche, le retour de Donald Trump, ce qu'il va faire. Je pense qu'il a un peu compris que le monde est vaste et que la présence des États-Unis est importante.
Merci beaucoup, Pierre-Antoine Donnet, auteur de Chine, l'Empire des Illusions aux éditions Saint-Simon. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
Merci beaucoup.
Et je vous remercie à vous également, amis auditeurs, de votre fidélité. N'hésitez pas à partager largement ce podcast que vous pouvez retrouver. Vous tapez très simplement Orient Extrême sur Google, vous retrouvez les podcasts. Merci pour votre fidélité, que la paix soit avec vous.